Journal présenté ce soir par Emma Sarango.
Bonsoir à tous. La première grande réforme sociale du quinquennat est officiellement scellée. Les 5 ordonnances du Code du travail ont été signées aujourd'hui par le président Macron lors d'un cérémonial reflétant la fermeté de l'exécutif. Fermeté face à la contestation dans la rue, dont l'ampleur sera réellement mesurée demain avec cette mobilisation à l'appel de la France insoumise, cruciale pour son leader. Un décryptage avec un politologue spécialiste de la gauche. Vers un assouplissement du Brexit, la première ministre britannique a tenté de rassurer aujourd'hui ses futurs ex-partenaires européens. Theresa May prône une transition douce et ordonnée. Des mots chaque jour plus rageurs traversent le Pacifique. Donald Trump qualifie aujourd'hui de fou le leader nord-coréen Kim Jong-un. Après 4 mois de débats, 300 heures de concertation, les ordonnances sur le droit du travail seront publiées en début de semaine prochaine au Journal officiel. Les 5 textes ont été signés aujourd'hui par Emmanuel Macron avec une mise en scène très solennelle devant les caméras de télévision, sous les ordres de l'Élysée, assis à son bureau. Le président de la République a paraphé ces ordonnances très contestées et salué une réforme inédite.
Les 5 ordonnances relatives à la réforme du droit du travail viennent d'être signées. Elles consacrent un engagement de campagne important et une réforme en profondeur inédite du marché du travail, indispensable à notre économie et notre société. Cette réforme, menée dans un temps record, jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. Ce sont des dizaines d'heures de débats parlementaires, 80 environ au total, plus de 300 heures de concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux pour refonder la philosophie de notre droit de travail, son état d'esprit, avec des effets profondément structurants sur l'emploi, en particulier pour les plus jeunes et les moins qualifiés.
Ces 5 ordonnances prévoient notamment le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif ou encore la fusion des instances représentatives du personnel. Une réforme qui sera évaluée par des experts indépendants, promet la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et parmi les adversaires les plus farouches de cette réforme, les routiers qui appellent à la grève à partir de lundi. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il faut discuter, insiste la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Des réponses à leurs revendications pourraient être annoncé dans les prochains jours. En attendant, la contestation se poursuit dans la rue après les défilés syndicaux au bilan mitigé. C'est la France insoumise qui appelle au rassemblement demain à Paris. Le mouvement mise, je cite, sur une déferlante, notamment de la jeunesse, car cette journée apparaît comme un test pour son leader, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Fabien Escalona.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des gauches en Europe. Le leader de la France insoumise l'a martelé ces dernières semaines. La mobilisation de demain n'est pas la journée de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on doit le croire? Est-ce qu'on peut le croire?
Alors, c'est en partie vrai, parce qu'il a réussi à attirer avec lui d'autres forces ou d'autres personnalités qui seront présentes. Il y aura des membres de l'aile gauche du PS, il y aura Benoît Hamon au nom de son mouvement, il y aura Attac et même quelques syndicalistes. Donc c'est vrai qu'il y a eu un effet de rassemblement qui a été réussi. Après, c'est évident que c'est une initiative unilatérale de la France Insoumise pour choisir cette date et que la France Insoumise, avec cette date, fait la démonstration d'un état de fait, bien sûr, mais fait la démonstration aux yeux de tous quelle est la force dynamique et centrale à gauche, dans l'opposition à Emmanuel Macron.
Vous le disiez justement, cette volonté de rassembler cette fois de la part de Jean-Luc Mélenchon avec, j'ajoute, une délégation du PCF et du NPA. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon sait qu'il ne peut plus rester isolé s'il veut vraiment jouer le rôle de rempart?
Pour moi, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'affirmer une identité très claire de son mouvement, de s'affirmer comme la principale force d'opposition et puis d'entraîner ensuite derrière lui d'autres forces et d'autres mouvements. Je pense qu'il est réaliste qui sait qu'il n'est pas le seul sur ce créneau-là.
En tout cas, il est bien clair qu'effectivement, la manifestation de demain a pour but de se positionner comme principal opposant à Emmanuel Macron. Et la pression est d'autant plus grande, on imagine, après les déclarations de l'exécutif. Emmanuel Macron qui estime que la démocratie, ça n'est pas la rue. Propos répétés en substance ce matin par le porte-parole du gouvernement. Cette posture, elle sert finalement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon ?
C'est possible, oui, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu agaçant à voir ce genre de propos, alors que bien évidemment, la démocratie, c'est autre chose que des électeurs qui, de façon intermittente, vont mettre un bulletin dans l'urne. Voilà, c'est aussi la manifestation et toute une série d'autres pratiques et d'autres formes aussi de contestation du pouvoir en place. Donc effectivement, ils peuvent s'agripper à ces déclarations et à certains mots chocs pour essayer de faire monter l'indignation et donc l'insoumission. Ouais.
Et pour incarner le rempart à Emmanuel Macron, le mot d'ordre a été élargi pour cette contestation. Ce ne sont plus seulement les ordonnances qui sont dénoncées, mais je cite le coup d'État social d'Emmanuel Macron, ce qui englobe l'augmentation de la CSG, la réduction des APL, la suppression des emplois aidés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'exaspérer en brouillant le message ?
Non, je crois pas. C'est-à-dire que il y a ce qui fait aussi l'impopularité d'Emmanuel Macron, parce qu'il faut pas oublier aussi cette donnée-là. En tout cas, si on en croit les enquêtes d'opinion, c'est aussi parce qu'il y a eu une accumulation de choix, de décisions dans différents secteurs qui concernent la vie quotidienne. C'est le fameux cas des APL. Donc, il me semble que c'est plutôt malin de dire de transformer cette journée en une journée d'opposition aux choix budgétaires, autant qu'à la réforme du marché du travail.
Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi celui qui a théorisé le concept de campagne permanente. Si on est en campagne, on peut dire que les autres candidats souffrent, les Républicains, le PS, mais désormais le Front National avec le départ de Florian Philippot. Est-ce que c'est le scénario idéal, finalement, pour Jean-Luc Mélenchon, ce tête-à-tête idéologique avec Emmanuel Macron ?
Ah ben ça, c'est sûr que lui, il cherche à installer ce duel contre Macron, et comme il l'a répété dans les dernières interviews, il veut se présenter comme le recours à Emmanuel Macron. Voilà. Après, la question, c'est de savoir si ça va être possible de tenir 5 ans comme ça. Mais si vous voulez, au-delà de l'actualité immédiate, je crois qu'il y a la volonté dans la France insoumise, c'est très clair avec leur journée d'été, de s'implanter localement à travers des mobilisations qui passent sous les radars nationaux, qui sont des mobilisations locales, qui peuvent entraîner des gens sur le terrain, sur des aspects très concrets.
Et la crise au FN peut l'y aider ?
Oh, je connecterai pas les deux aussi directement. Il y a un enjeu d'implantation qui fait l'identité, l'originalité du mouvement, qui fait son défi. Disons que les liens entre les électorats FN insoumis sont quand même très ténus jusqu'à présent. Ça reste encore vrai. Donc moi, je serais assez prudent sur cette idée qu'il y aurait des vases communicants entre les difficultés de l'un et les opportunités de l'autre. Et
Fabien Escalona, docteur en sciences politiques, spécialiste des gauches en Europe, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le défilé à l'appel de la France Insoumise partira demain à 14h de la place de la Bastille à Paris. On évoquait à l'instant le divorce au sein du Front National. Eh bien, le Conseil régional du Grand Est en est devenu un symbole. Le groupe de 46 élus va se scinder en deux. Une trentaine qui reste au FN et une dizaine qui part avec les patriotes autour de Florian Philippot, l'ancien numéro 2 du Front National qui avait été tête de liste dans la région il y a 2 ans. De lourdes peines requises au procès de l'incendie d'une voiture de police à Paris. 4 ans de prison ferme requis notamment contre Antonin Bernanos, le militant antifasciste de 23 ans. Lui nie avoir fracassé le pare-brise du véhicule et frappé le policier assis sur le siège conducteur. La date du délibéré n'est pas encore connue. C'est l'un des feuilletons qui aura marqué l'été, celui des admissions post-bac et son tirage au sort très décrié qui aura laissé de nombreux bacheliers sur le carreau. Eh bien, la justice s'invite dans cet imbroglio. Le tribunal administratif de Bordeaux oblige l'université à inscrire 3 nouveaux étudiants pourtant malchanceux au tirage. François-Pierre Noël.
Tout le monde connaît le site internet très décrié, hein, admission post-bac ou aussi appelé APB, ce dispositif où chaque jeune bachelier sélectionne un vœu pour son entrée à l'université. Et dans cette affaire, les 3 étudiants remplissaient tous les critères. Ils étaient bacheliers dans la région de l'université, ils habitaient dans le département et ils avaient sélectionné STAPS, une formation sportive en premier choix. Mais ils n'étaient pas les seuls. 1600 futurs étudiants avaient fait de même, 1600 jeunes bacheliers pour seulement 250 places. L'université de Bordeaux effectue donc un tirage au sort comme le prévoit la circulaire du 27 avril dernier du ministère de l'Éducation nationale. C'est là où le tribunal pointe une irrégularité. Ce fameux tirage au sort sur admission post-bac n'a jamais été l'un des critères du code de l'éducation. La circulaire n'a pas légalement la même valeur qu'une loi ou un décret. De plus, ce texte n'a pas été signé par la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, mais par le directeur général de l'enseignement supérieur, ce qui porte un doute supplémentaire sur la légalité réelle. Le tribunal a donc suspendu la décision de l'Université de Bordeaux et ordonné l'intégration des 3 étudiants dans la formation qu'ils souhaitaient. Une décision acceptée d'ailleurs par l'université, mais d'ores et déjà contestée par le ministère, qui a décidé de porter cette affaire, ce cas précis, devant le Conseil d'État. Sachant que par ailleurs, la justice est appelée à se prononcer sur le fond d'ici le mois de janvier prochain.
Alstom confirme être en discussion avec Siemens pour un rapprochement dans le secteur ferroviaire. Ce projet franco-allemand avorté il y a 2 ans fait donc son retour alors que Siemens négocie depuis des mois avec le Canadien Bombardier. Plus de 2 semaines après le passage de l'ouragan Irma dans les Caraïbes, les vols commerciaux au départ et à destination de l'île française de Saint-Martin vont reprendre demain pour la plupart des compagnies aériennes. Un état d'esprit constructif, selon Michel Mercier, des avancées qui montrent une volonté pour Emmanuel Macron. L'Union européenne apparaît rassurée après le discours de Theresa May cet après-midi à Florence, en Italie. La première ministre britannique propose une période de transition de 2 ans à l'issue du Brexit. Et elle s'engage à honorer les engagements financiers, Antoine Gignot.
Theresa May ne donne pas de chiffres, mais elle s'engage à solder les comptes. Elle paiera la part du Royaume-Uni dans les programmes européens et elle plaide pour une période de transition de 2 ans, 24 mois pendant lesquels les Britanniques continueraient à avoir accès au marché unique, une manière, dit-elle, de rassurer les investisseurs. Mais la principale nouveauté pour tenter de débloquer les négociations sur le Brexit concerne les expatriés, les 3 millions de ressortissants européens qui vivent au Royaume-Uni, tout comme les Britanniques de l'étranger, n'auront pas la possibilité de se tourner vers les instances européennes en cas de litige, mais le Royaume-Uni, explique Theresa May, prendra en compte les règles du droit européen.
Quand il y a de l'incertitude autour d'un passage d'une loi européenne, je veux que les tribunaux britanniques soient capables de prendre en compte les jugements rendus par la Cour européenne de justice pour assurer une interprétation cohérente. Et sur cette base, j'espère que nos équipes vont arriver à un accord rapide.
Et Theresa May précise, pas question de modifier le droit du travail, pas question d'essayer d'attirer les entreprises en promettant de la main-d'œuvre à bas prix. Le Royaume-Uni, dit-elle, s'engage à maintenir des standards hauts en matière d'emploi. Theresa May qui propose également un accord de coopération en matière de sécurité et de défense.
Le Royaume-Uni, où un jeune homme de 18 ans a été inculpé cet après-midi dans le cadre de l'enquête sur l'attentat du métro de Londres. Il avait été arrêté le lendemain de l'attaque à Douvres dans le sud de l'Angleterre. Des renforts de police envoyés en Catalogne depuis la capitale, Madrid. Décision du ministère de l'Intérieur pour assurer le maintien de l'ordre et surtout empêcher la tenue du référendum d'autodétermination. 3 000 à 4 000 hommes mobilisés selon la presse espagnole. La surenchère verbale se poursuit entre Donald Trump d'un côté et Kim Jong-un de l'autre. Nouvel épisode ce matin avec un tweet très matinal du président des États-Unis, Grégory Phillips.
Donald Trump s'est réveillé tôt et à 6h ce matin, heure de Washington, il publie ce message sur son compte Twitter. Kim Jong-un de Corée du Nord est clairement un fou qui ne craint pas d'affamer et de tuer son peuple. Il va être mis à l'épreuve comme jamais. Après avoir promis en août le feu et la colère, après avoir envisagé mardi aux Nations Unies la destruction totale du pays, Donald Trump menace donc à nouveau directement le régime nord-coréen. Où cela peut-il mener? Plusieurs analystes ici pensent que Trump s'enferme dans cette rhétorique guerrière et qu'il lui est impossible d'aller plus loin. Les généraux qui entourent le président américain savent que toute intervention militaire serait potentiellement catastrophique. Donald Trump n'a pas non plus fixé de ligne rouge claire à ne pas franchir. Malgré les menaces et les insultes, Pyongyang poursuit donc ses provocations et le développement de son programme nucléaire. Hier à New York, le chef de la diplomatie nord-coréenne a fait savoir que son pays envisageait un nouvel essai de bombe H au-dessus du Pacifique.
L'ONU a besoin de 200 millions de dollars pour affronter la crise des Rohingyas, cette minorité musulmane réprimée en Birmanie et réfugiée au Bangladesh voisin. Là-bas, la nourriture, l'eau potable et les médicaments manquent pour les réfugiés. Les Nations Unies sont en train d'établir un plan pour recueillir des fonds. Pas de retour de la publicité après 20h sur France Télévisions. Le président du CSA y est en tout cas opposé. Le service public doit cultiver sa spécificité, estime Olivier Schramek dans un entretien au quotidien Le Monde, alors que fin août, la présidente de France Télévisions l'avait envisagé. Un samedi ensoleillé en prévision avec de belles éclaircies sur une grande partie du pays, surtout l'après-midi. Quelques grisailles seulement autour du golfe du Lion et dans le nord-est et quelques coups de tonnerre possibles sur le massif central. Les températures minimales, 5 degrés dans le nord, 13 degrés dans la moitié sud.